Bien, je vous remercie d'être là, peut-être un petit peu moins nombreux que la dernière fois. Donc, je vous avais laissé en octobre 1986, un peu dans une période de morzo de notre sujet, d'où l'accumulation de données factuelles qui peuvent lasser certains d'entre vous, mais ça fait partie de l'exercice. Alors, nous allons avoir des pièces plus importantes peut-être cet après-midi. Commençons d'abord par un signe des temps qui, évidemment, n'est pas perçu comme tel sur le moment. Le 15 octobre 1986, à l'issue d'une cérémonie où des conscrits prêtaient serment à l'armée israélienne au mur des Lamentations, deux grenades sont lancées sur l'assistance, faisant un mort, le père d'un des soldats, et 47 blessés. Plusieurs organisations palestiniennes, dont le Fatah, revendiquent l'opération. L'OLP la justifie en affirmant que ce n'est pas un acte de terrorisme, mais un acte de résistance visant des militaires en territoire occupé. Finalement, la police israélienne arrêtera des membres du djihad islamique, organisation peu connue jusque-là. Pour le coordinateur des activités israéliennes dans les territoires occupés, Shmuel Goren, c'est l'OLP qui a commandité l'acte au djihad islamique, car, dit-il, avec le sens de la certitude qui s'impose dans ce genre de circonstances, il n'y a pas de danger intégriste dans la bande de Gaza. Je cite, « Nous avons connu dans le passé quelques cas d'extrémisme religieux dans la bande de Gaza, mais ce phénomène a été enrayé. » Donc c'est une déclaration à mettre dans l'anthologie des grandes déclarations démenties par les faits. Le 16 octobre, lendemain, en représailles, Israël attaque le camp palestinien de Miyé-Miyé près de Saïda. Un F-4 est abattu. Selon Israël, c'est dû à une explosion accidentelle d'une bombe qu'il transportait. Son pilote est ensuite récupéré par un hélicoptère israélien, mais en revanche, le navigateur, Ron Arad, tombe aux mains des milices locales. Il s'ensuit une grande confusion. Il semble au moins pour un moment que Arad soit détenu par des hommes d'Amal dans la perspective d'un échange de prisonniers. Selon Nabi Berri, le 21 octobre, Israël a fait prisonnier tout le Liban Sud. Il est inadmissible que cet État mobilise l'opinion publique mondiale autour d'un de ses prisonniers alors qu'il oublie les nôtres. La question qui doit être posée n'est pas où se trouve le pilote prisonnier, mais pourquoi l'aviation israélienne bombarde-t-elle des civils palestiniens et libanais ? Le pilote se trouve aux mains d'Amal, mais avant de réclamer sa restitution, Israël doit libérer le Liban et tous les prisonniers qu'il détient. C'est le début d'une longue affaire qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque Ron Arad disparaîtra dans les coulisses libanaises, si j'ose dire, entre organisations qui se prennent des prisonniers, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens cherchent désespérément à avoir des informations sur ce navigateur disparu. Cette affaire précipite la formation du nouveau gouvernement israélien prévu depuis longtemps, c'est-à-dire donc que Shamir devient Premier ministre et Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères. Le discours d'investiture marque bien la direction prise, je cite, « La colonisation des Eretz Israël, de la terre d'Israël, est l'une des valeurs suprêmes du sionisme. Nous ne ferons pas de différence entre une partie et une autre, c'est-à-dire entre Israël et les territoires occupés. De même qu'il n'y a qu'un seul peuple d'Israël, il n'existe qu'une seule terre d'Israël. » Et dans cette déclaration, il n'est pas question d'aller au-delà des accords de Camp David en ce qui concerne les habitants arabes de Judée-Samarie et de la bande de Gaza. La guerre à outrance contre le terrorisme se poursuivra. Mais sur le fond, il n'y a pas vraiment de différence entre les travaillistes et le Likoud. la différence porte plus sur la tactique que sur la stratégie en ce qui concerne le processus de paix. Toujours en octobre, le 24, c'est la conclusion de l'affaire Ndawi. Vous vous rappelez ce Syrien arrêté pour avoir tenté de placer un explosif dans un avion de ligne israélien. Il est condamné à 45 ans de prison par un tribunal londonien et les pays occidentaux expriment leur solidarité avec Londres tout en refusant de rompre les relations diplomatiques avec la Syrie. On ne va pas plus loin que du rappel temporaire de leurs ambassadeurs à Damas. Et inversement, la Syrie qui demande aux pays arabes d'interrompre la collaboration avec la Grande-Bretagne n'est pas suivie. Alors, petit événement, mais qui va annoncer une grosse affaire, le dimanche 2 novembre 1986, l'un des otages américains au Liban est libéré à Beyrouth. On s'interroge sur un éventuel rôle de la Syrie dans cette libération, mais des sources diplomatiques arabes, entre guillemets, marquent qu'il faut plutôt regarder du côté de l'Iran. Et quant au président Reagan, il fait savoir que, je cite, « Malheureusement, nous ne pouvons divulguer aucun des détails de la libération, car la vie d'autres Américains et d'autres otages occidentaux sont toujours en danger. » De fait, le 3 novembre, un hebdomadaire libanais chiite Al-Shira explique qu'il y a eu un marché secret entre les États-Unis et l'Iran, fondé sur le principe d'échange d'armes contre des otages, et qu'un émissaire américain s'est rendu à Téhéran dans ce but. C'est le début du scandale de l'Iran Gate. Donc, pour comprendre une affaire horriblement compliquée, il faut revenir en arrière, chronologiquement, pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'Iran Gate, qui a failli emporter la présidence de Ronald Reagan. Le cadre du scandale est né de la conjonction de deux affaires distinctes. La première, c'est l'aide clandestine apportée au Contra contre le régime sandiniste au Nicaragua. Et la seconde est l'attitude à prendre dans la première guerre du Golfe entre l'Irak et l'Iran. Ici, rajouté dessus, l'affaire des otages américains au Liban. On y trouve un mélange d'étonnant de hauts fonctionnaires, de services secrets, de marchands d'armes et d'intermédiaires véreux qui ont mis en connexion les affaires du Moyen-Orient et celles de l'Amérique latine dans le contexte de la fin de la guerre froide et de la montée de l'islamisme. Alors revenons d'abord très en arrière, puisque le Conseil national de sécurité, National Security Council, a été créé en 1947 par Truman, en même temps que la CIA. Son but est de coordonner la politique étrangère des États-Unis et de servir de conseil au président, et sa composition est à la discrétion du président des États-Unis. En 1953, Eisenhower y a ajouté le poste de conseiller spécial pour les affaires de sécurité nationale, et ce conseiller spécial s'est doté de sa propre administration. De ce fait, il y a eu confusion progressive entre le Conseil national de sécurité, où siège les principaux responsables de la politique étrangère américaine, c'est-à-dire le président, le vice-président, le secrétaire d'État, le secrétaire à la défense, des représentants de l'armée et des services de renseignement, qui a été créé par un acte du Congrès Et l'administration de la sécurité nationale, qui appartient au personnel de la Maison Blanche et qui est donc appartient au privilège de l'exécutif, c'est-à-dire en dehors du contrôle du Congrès des États-Unis. Le personnel de la sécurité nationale a pour mission officielle de fournir des évaluations de la situation internationale au président. Mais Kissinger, sous Nixon, en a fait le siège d'une diplomatie parallèle à celle du Département d'État, dépassant ainsi les compétences initiales de l'institution. L'administration Reagan lui rajoute des compétences non définies dans le domaine du renseignement. Après les affaires révélées sous Carter, les opérations clandestines doivent avoir une autorisation préalable, finding en arabe, en anglais, pardon, excusez-moi du lapsus, donc une autorisation préalable du président, et un rapport doit être transmis à un moment approprié, timely fashion, au comité parlementaire concerné. Le délai n'est pas défini, mais il est compris par tous comme ne pouvant pas dépasser quelques jours. En 1982, l'administration Reagan a confié à la CIA l'aide à apporter au contrat, mais le Congrès est hostile à cette guerre clandestine contre le Nicaragua. En décembre 1982, la Chambre des représentants a voté à l'unanimité l'amendement Boland 1 qui interdit à la CIA et au Département de la Défense d'utiliser des fonds, je cite, « pour le but de renverser le gouvernement du Nicaragua ou de provoquer une confrontation armée entre le Honduras et le Nicaragua ». Fin de citation. En jouant sur les mots, l'administration Reagan tente de maintenir l'aide au contrat en affirmant qu'elle n'a pour but qu'elle n'a pas pour but de renverser le gouvernement sandiniste, mais de contenir son activisme révolutionnaire. En octobre 1984, l'amendement Boland II interdit toute aide au contrat de la part de toute agence ou entité des États-Unis impliquée dans les activités de renseignement. L'administration Reagan est pourtant décidée à continuer dans cette voie. Le conseiller à la sécurité nationale, McFarlane, confie le dossier à son subordonné, le lieutenant-colonel North, en affirmant que le personnel du Conseil de sécurité nationale n'est pas concerné par l'amendement Boland. North établit tout un réseau d'intermédiaires non gouvernementaux, une sorte de ministre CIA clandestine. Encore faut-il financer sans passer par des fonds officiels américains. On lève de l'argent auprès d'un certain nombre de personnalités américaines en laissant entendre, sans le préciser, que l'on dispose de l'approbation du président des États-Unis. L'autre possibilité est de s'adresser à des gouvernements étrangers. Après tout, outre l'anticommunisme, on peut jouer sur le chantage implicite que l'administration Reagan serait particulièrement sensible à un geste de cette nature et qu'elle saurait s'en souvenir dans d'autres domaines. Les premiers à être approchés dans ce sens sont les Israéliens au printemps 1984. Il donne une réponse négative, tandis que le secrétaire d'État Schulz marque son opposition à toute démarche de ce genre qui risquerait d'être considérée comme une violation de la Constitution des États-Unis. McFarlane passe outre et se tourne vers son bon ami. Vous vous rappelez, ils avaient fait le Liban ensemble en 1983, vous vous souvenez de l'année dernière, le prince Bandar Ben Sultan, ambassadeur d'Arabie Saoudite à Washington. Le prince Bandar fournit $1 million par mois de fonds privés saoudiens, entre guillemets, afin de s'assurer la complaisance des États-Unis envers son pays. Après une rencontre entre le roi Fahd d'Arabie Saoudite et le président Reagan, en février 1985 à Washington, la somme est doublée. Plus tard, le sultan de Brunei donne une somme d'une dizaine de millions de dollars. Le tout passe par des comptes numérotés en Suisse. Et même le gag suprême, c'est qu'on se trompe dans les numéros de compte et on donne un numéro de compte erroné au sultan de Brunei. Donc son argent va sur un autre compte en Suisse. Il faudra des mois pour que les Américains récupèrent l'argent égaré. Pendant ce temps, Donald Rumsfeld, qui, vous rappelez, avait été envoyé des États-Unis par Reagan au Moyen-Orient, a exercé sa mission et en décembre 1983, il s'est rendu à Bagdad où il a eu des entretiens chaleureux avec Tariq Aziz et avec Saddam Hussein. Il a relancé le projet de construction d'un oléoduc transportant le pétrole irakien par la Jordanie vers la mer Rouge. Des compagnies américaines y sont intéressées. Mais les responsables irakiens se montrent inquiets de la vulnérabilité de l'oléoduc à une attaque israélienne. Donc, Rumsfeld va chercher auprès des Israéliens des assurances que l'oléoduc en question ne serait pas attaqué par Israël. En mars 1984, Rumsfeld transmet à Aziz la proposition israélienne de rouvrir l'ancien oléoduc de l'Iraq Petroleum Company, l'IPC, qui allait à Haïfa, et qui passe donc par le territoire contrôlé par Israël. Shamir, par la même occasion, fait savoir qu'Israël serait prêt à vendre des armes à l'Irak. Aziz refuse même de transmettre à Saddam Hussein la proposition, car, dit-il, il risquerait sa vie rien qu'à dire qu'Israël propose des armes à l'Irak. Pour les Israéliens, cela confirme que l'Irak est bien un ennemi plus dangereux que l'Iran, avec lequel Israël maintient des relations secrètes de livraison d'armement, en dépit de son implication dans les affaires libanaises. Autrement dit, pour être clair, au même moment où l'Iran soutient le Hezbollah en train d'émerger au Liban, Israël vend des armes à l'Iran. Les conclusions de la mission Rumsfeld rappellent l'importance de la région du Golfe et la nécessité de soutenir l'Irak dans la guerre contre l'Iran. Or, depuis 1982, Washington fournit à Bagdad des informations sur les mouvements de l'armée iranienne ainsi qu'un peu d'armement. Et les États-Unis restaurent leurs relations diplomatiques avec l'Irak et ne condamnent que mollement l'utilisation par l'Irak de gaz de combat dans la guerre contre l'Iran. En conséquence de la mission Rumsfeld, l'administration Reagan lance l'opération Staunch, destinée à empêcher les alliés des États-Unis de fournir des armes à la République islamique. À contre-cœur, les Israéliens doivent s'incliner et cessent de vendre des armes à l'Iran de Roménie. Tout en essayant de maintenir des contacts avec Téhéran par le biais d'intermédiaires. En même temps, Reagan marque publiquement la détermination de son pays à ne faire aucune concession aux terroristes et de ne passer aucun marché avec des terroristes. Alors, la suite des événements est encore plus difficile à distinguer, donc je vais vous présenter quelque chose que j'ai essayé d'éclaircir à partir des informations extrêmement confuses, puisque là encore, on est dans le domaine du confus, de l'interlope, etc., et que finalement, même les acteurs principaux du scandale ont du mal à suivre eux-mêmes tous les tenants et aboutissants de l'affaire. Considérant l'Irak comme leur ennemi régional numéro un, et pariant sur une victoire iranienne qui permettrait un rapprochement avec Israël, voire un changement de régime à Téhéran, les Israéliens tentent de renouer avec l'Iran. À la fin de 1984, David Kimchi, qui vous rappelez était l'ancien coordinateur des opérations israéliennes au Liban en 1982, qui est maintenant secrétaire général des affaires étrangères israélien. Donc, David Kimchi organise à Hambourg une réunion secrète qui comprend, outre lui-même, un marchand d'armes israélien, Yaakov Nimrodi, qui est un ancien attaché militaire israélien en Iran, et un marchand d'armes iranien, Manouchir Orbanifar. Ce dernier se présente comme un proche de la faction de Rafsanjani, le puissant chef du Parlement iranien. Le message que passe Orbanifar est que les Iraniens sont prêts par tous les moyens à se procurer des armes. Lors de l'affaire du détournement de l'avion de la TWA, en juin 1985, les Iraniens ont laissé entendre que la libération des otages américains montre leur capacité d'influence au Liban. Mais les Américains n'ont pas saisi le signal. En même temps, Kimchi plaide auprès des Américains la nécessité d'ouvrir un dialogue avec les Iraniens qui, sinon, risqueraient de tomber sous la coupe des Soviétiques. Le personnage clé de l'affaire est Orbanifar. Il a tenté d'abord d'approcher la CIA en proposant d'échanger des armes contre des otages. L'agence américaine se méfie de lui et fait passer le message que c'est une personne non fiable. Orbanifar entre ensuite en contact avec Adnan Khashoggi. C'est un Saoudien qui est devenu l'un des principaux intermédiaires dans le commerce des armes et a bâti une fortune considérable. Khashoggi se laisse convaincre par Orbanifar qu'il y a là l'opportunité d'un changement de la politique iranienne. Il est prêt à financer l'opération et à introduire Orbanifar dans son réseau de relations qui passe aussi par les Israéliens et les Égyptiens. Ce qui est certain, c'est qu'au printemps 1985, Orbanifar, appuyé par Khashoggi, a proposé aux Israéliens de leur acheter des armes américaines pour les livrer à l'Iran. Cela suscite l'enthousiasme des Israéliens, mais ces derniers ne peuvent rien faire sans l'accord des Américains. Ils ne peuvent pas aller plus loin que de livrer des munitions d'artillerie. Or, les intermédiaires iraniens leur ont fait savoir que Téhéran demande des missiles TOW, c'est-à-dire des missiles anti-char, ce qui exige une autorisation préalable de Washington. Peres, Rabin et Shamir envoient à ce moment-là Kimchi traiter directement avec McFarlane, puisque l'on sait que Schultz et Wendbinger, qui est le secrétaire d'État à la Défense, sont totalement hostiles à tout marché de ce genre. Les Américains n'ont qu'une vue confuse de la situation intérieure en Iran. Ils ont tendance à croire que les Israéliens en savent beaucoup plus qu'eux ce qui est en fait totalement douteux. Les assurances israéliennes rendent crédibles les propositions de Rohrbanifa, dont l'attrait est accru par la possibilité d'obtenir la libération des otages américains au Liban. Reagan donne son approbation à l'opération. Afin de contourner l'opération Staunch, les Israéliens utiliseront leur propre stock de missiles Tau et ensuite les Américains remplaceront les missiles israéliens vendus. Donc les Américains ne livrent pas d'armes à l'Iran. Logique. La première livraison, alors ça fait des circuits horriblement compliqués. Donc vous avez l'un des schémas ici entre les différents intermédiaires. Vous voyez, entre Israël et l'Iran, Rohrbanifa, Khashoggi qui finance la liaison entre Rohrbanifa et Nemrodi. Pour chacune d'opération, on a un schéma aussi compliqué que celui-là que je vous donne en exemple. La première livraison est de 96 missiles, a lieu à la fin août 1985. Le tout passe par des intermédiaires qui, évidemment, reçoivent des commissions. Khashoggi finance l'opération et est remboursé sur les paiements faits à Rohrbanifa par les Iraniens. Le 15 septembre, 408 missiles supplémentaires sont fournis et un otage américain est libéré au Liban. Les Américains sont déçus parce qu'ils attendaient la libération de tous les otages. Mais Rohrbanifa s'engage à ce que d'autres otages soient libérés si les opérations de livraison se poursuivent. À ce moment-là, North se trouve chargé du dossier. Comme les Israéliens ne peuvent fournir directement les Iraniens, ils transmettent au réseau de North les armes qui doivent ensuite être transférées en Iran, d'où une certaine pagaille, lors de la livraison suivante en novembre de 18 missiles, c'est-à-dire des missiles Hawks, qui sont d'un modèle ancien, contrairement aux attentes des Iraniens. Je rappelle, les Hawks, ce sont des missiles sol-air. Des échelons inférieurs de la CIA sont impliqués, alors qu'il n'existe aucune autorisation présidentielle pour ce genre d'opération. Pour la première fois, North opère une diversion d'une partie des fonds engagés. Cette fois-ci, il utilise l'argent retiré des ventes d'armes à l'Iran en profit des contrats au Nicaragua. À la fin de l'année, McFarlane quitte ses fonctions de secrétaire, enfin de conseiller à la sécurité nationale, et est remplacé par l'amiral Poindexter. Et les Américains ont tendance à considérer qu'ils peuvent se passer des Israéliens et traiter directement avec les Iraniens. De son côté, Kim Shea est remplacé par le conseiller du Premier ministre pour les affaires de terrorisme, Amiram Nir. En janvier 1986, Reagan donne la fameuse autorisation. Donc vous voyez ici le fac-similé, vous ne pouvez pas lire à cause de la distance, mais c'est le fac-similé avec la signature de Ronald Reagan de l'autorisation donnée à l'opération. Cette action est destinée à établir un gouvernement plus modéré en Iran, à pousser ce pays à restreindre ses actions terroristes et à obtenir la libération des otages à Beyrouth et empêcher de nouveaux actes terroristes. Dans ce cadre, la livraison d'armement est destinée à soutenir les éléments dits modérés à Téhéran. Non seulement l'autorisation n'est pas transmise dans les délais requis à la commission compétente du Congrès, mais encore, pour contourner la nécessité d'un accord du Congrès pour la vente d'armes à l'étranger, Le département de la Défense fournit les armes à la CIA, qui les met ensuite à la disposition de North et de Point Dexter. Donc la CIA, le département de la Défense, ne livre pas des armes à l'Iran, puisqu'il les donne à la CIA. C'est un système très hémiplégique. Le 27 février 1986, 500 missiles TOW, alors là, les schémas deviennent encore un peu plus compliqués, comme vous pouvez le voir sur le diagramme suivant. On s'y perd, hein, ça ressemble assez à Astérix et chez Lego. Le 27 février 1986, 500 missiles TOW sont livrés à l'Iran sans nouvelle libération d'otages, tandis que les Israéliens s'inquiètent d'être marginalisés dans l'affaire. Dans une lettre à Reagan, le 28 février 1986, Shimon Peres presse le président de continuer dans la voie du dialogue avec l'Iran. Le monde libre dans sa globalité bénéficierait d'un changement politique fondamental dans ce pays. On pourrait ainsi régler le dossier libanais et établir une relation stratégique avec Téhéran. Rohmani Farr multiplie les offres alléchantes à North et lui suggère de divertir une partie des gains financiers au profit des contrats, ce qu'il est déjà fait d'ailleurs. L'intermédiaire fait savoir que les Iraniens sont prêts à rencontrer des émissaires américains et qu'ils veulent une livraison de pièces détachées de Hawks avant toute libération d'otages. On se met d'accord sur les montages financiers complexes, dont vous voyez un schéma ici. Poindexter appelle McFarlane, qui a pris sa retraite, pour diriger la délégation qui se rend à Téhéran le 25 mai avec une fraction des pièces détachées demandées. C'est un fiasco. Les Américains ne rencontrent que des subalternes qui exigent la totalité des pièces détachées. Et les Iraniens demandent aussi toujours la libération des militants d'Al-Darwa arrêtés au Koweït pour satisfaire les demandes de la partie libanaise dans l'affaire des otages, c'est-à-dire le Hezbollah. Au bout de deux jours, en dépit d'une offre iranienne d'une libération fractionnée des otages, la délégation rentre aux États-Unis et McFarlane recommande que l'on arrête les opérations. En fait, donc, on gèle l'opération, mais les intermédiaires s'activent pour la relancer parce qu'eux, ils touchent leur commission. Pendant ce temps, North se met d'accord avec Rabin pour la livraison d'armes d'origine soviétique possédées par les Israéliens, donc livrer des armes soviétiques possédées par les Israéliens au contrat. Il continue de détourner une partie de l'argent iranien dans ce sens. Le 26 juillet 1986, un nouvel otage est libéré au Liban, ce qui permet de reprendre des discussions avec un autre émissaire iranien, cette fois en Europe. Le tout se déroule sans les Israéliens. North exprime clairement l'idée que les États-Unis sont partisans de la chute de Saddam Hussein. Après un certain nombre de péripéties, le 28 octobre 1986, 500 missiles TOW supplémentaires sont fournis aux Iraniens, mais comme on l'a vu, un seul otage est libéré. Puis vient la publication dans la presse libanaise. Alors, autopsie d'un scandale. Il est certain que l'affaire est indissociable de la lutte des factions à Téhéran. La ligne dure est incarnée par Mir Hussein Moussaoui et l'ayatollah Montazeri, tandis que Rafsanjani et Khamenei expriment une position plus réaliste, soucieuse des intérêts immédiats du pays. C'est-à-dire qu'on est dans le schéma inverse d'il y a trois ans, où ce sont les durs d'aujourd'hui qui sont les modérés de l'époque, les réalistes, et les modérés d'aujourd'hui sont les durs de 1986. Khomeini a un pouvoir de décision et arbitre entre les groupes, ce qui est fondamental dans un régime autoritaire. Le chef a le pouvoir de décision et il arbitre entre les uns et les autres afin de conserver la première place. Au bon tacticien, il considère que les États-Unis restent le grand Satan et Israël une abomination morale, mais que la priorité immédiate doit être donnée à la lutte contre Saddam Hussein. Donc l'ayatollah Khomeini a donné sa protection au groupe de Rafsanjani qui a mené la négociation via des intermédiaires. La situation dans les cercles du pouvoir à Téhéran est au moins aussi confuse que celle qui règne à Washington. Donc confusion à Washington, confusion à Téhéran, ça fait évidemment des produits totalement obscurs à analyser. De bout en bout, les Iraniens ont manipulé leurs interlocuteurs en laissant croire à un changement de ligne politique alors que le seul objectif est la livraison d'armement. Mais les intermédiaires véreux ont aussi menti sur les propositions américaines aux Iraniens. C'est-à-dire tout le monde ment. De plus, les Iraniens ont payé le prix fort pour le matériel fourni qui souvent ne correspondait pas à leur demande initiale. Ce qui explique qu'il y ait une marge bénéficiaire importante sur les ventes à l'Iran, puisqu'on fait payer très cher à l'Iran. Alors, en plus de ce que les intermédiaires empochent au passage, il reste de l'argent. Et c'est cet argent qui est détourné vers les contrats. Enfin, les Iraniens doivent composer avec leurs alliés libanais qui ont leurs propres exigences, c'est-à-dire en particulier la libération des prisonniers politiques au Koweït. Les radicaux ont utilisé l'affaire contre Rafsanjani en passant par la presse libanaise, d'où la publication. L'intéressé a répliqué en ayant recours à un flot de rhétorique anti-américaine et en démentant formellement toute participation israélienne, et il est sauvé par la protection que lui accorde Khomeini. Dans cette affaire, outre l'intérêt de leurs marchands d'armes, les responsables israéliens étaient poussés par la volonté de restaurer la stratégie périphérique datant de l'époque de Ben-Gourion, c'est-à-dire de faire des pays voisins du monde arabe des alliés stratégiques, l'Éthiopie, la Turquie et l'Iran. Ils ont cru qu'ils pourraient ramener la République islamique dans leur camp et former une alliance de revers par rapport à l'Irak, sans comprendre que la Syrie a acquis cette position. C'est la Syrie qui forme l'alliance de revers de l'Iran par rapport à l'Irak. Le seul intérêt que Téhéran a dans ses contacts avec Israël est de se procurer clandestinement de l'armement et surtout de trouver une voie d'accès aux Américains. Reagan a agi de bonne foi en s'appuyant sur les assurances israéliennes et a cru en la possibilité d'un changement de ligne politique à Téhéran. Le facteur qui a beaucoup joué était que le président Reagan était personnellement très affecté par le sort des otages américains au Liban. Il était soumis à la pression morale des familles et de la presse. Vous savez, dès qu'on a des otages, immédiatement la presse, les familles font des activités médiatiques pour obtenir la libération, donc font pression sur leur propre gouvernement pour qu'ils cèdent aux exigences des preneurs d'otages. Par ailleurs, Reagan a été aussi victime de son style de gouvernement fondé sur l'approbation de quelques grandes orientations, suivi d'une délégation de pouvoir aux exécutants sans aucune supervision. Il a laissé faire, tout en connaissant l'opposition de principe de ses deux secrétaires, Schultz et Wenberger, secrétaire d'État et secrétaire à la Défense, et il ne s'est pas opposé aux dérives croissantes du personnel du Conseil national de sécurité, qui a outrepassé les missions initiales de l'institution et a abusé du privilège de l'exécutif, le dispensant du contrôle parlementaire. Selon toute probabilité, Ronald Reagan ne s'en est même pas rendu compte. Selon certaines analyses, en fait, il a été commencé, les premiers signes d'Alzheimer commençaient à jouer, même s'ils étaient imperceptibles pour l'entourage. Donc il commençait à avoir des vides dans sa perception des choses. Enfin, nous, c'est nos anciens présidents qui ont genre ce problème. Donc, dans ces affaires-là, dans toutes ces affaires-là, parce qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça se produise, on retrouve un rôle des intermédiaires plus ou moins véreux, avec un grand pouvoir d'affibulation et dont la capacité de persuasion est d'autant plus forte qu'ils vont dans le sens des désirs conscients ou inconscients de leurs interlocuteurs. On a quelques cas récents en France. En général, de gens issus du Moyen-Orient et qui savent parfaitement jouer sur les désirs conscients ou inconscients de leurs interlocuteurs. La réaction immédiate des acteurs américains à la publication est de refuser tout commentaire dans l'espoir qu'il ne s'agit là que d'un incident de parcours. Mais Schultz ne peut accepter de voir la politique officielle du Département d'État, l'opération Staunch, être ainsi publiquement démentie, et le secrétaire d'État entame le combat contre Poindexter. Ce dernier multiplie les demi-vérités et les arrangements avec la réalité, faisant tout porter sur le compte des Israéliens. Quant à Reagan, il se persuade qu'il n'y a pas eu de négociation avec les terroristes, ni échange d'armes contre des otages, mais une tentative de modifier la politique iranienne. C'était ça le problème avec Ronald Reagan, c'est qu'il avait une forte capacité à s'auto-influencer lui-même. Comme on peut s'y attendre, la presse américaine se jette sur l'affaire où les contradictions de l'administration Reagan deviennent patentes. Le 13 novembre 1986, Reagan est contraint de faire une déclaration publique par laquelle il minimise les faits et dément tout marché avec les terroristes. La presse reste incrédule, tandis que Schultz prend ses distances avec la politique de l'administration et accuse Poindexter d'avoir trompé le président. North prépare une nouvelle série de mensonges, mais les juristes de la Maison-Blanche marquent que l'autorisation de janvier 1986 ne peut couvrir les faits antérieurs. Les commissions du Congrès sur le renseignement découvrent le rôle du Conseil national de sécurité dans ce domaine. Le ministre de la Justice, l'attorney général, est chargé d'une enquête pour clarifier le dossier et découvre à son tour le détournement des fonds en faveur des contrats. Tandis que Reagan maintient sa version qu'il n'était pas au courant des livraisons antérieures à janvier 1986. Le 25 novembre, le président annonce que North et Poindexter sont relevés de leurs fonctions. Dans l'intervalle, North a essayé de détruire les dossiers compromettants à la Maison-Blanche. Le scandale est maintenant public. Une commission parlementaire est chargée dans l'enquête par le Congrès, tandis que parallèlement, une action judiciaire est lancée contre les responsables. Deux éléments fondamentaux sont en jeu. Le premier est la violation de la Constitution, représentée par les contournements des amendements Bolland et accessoirement le démenti des politiques officielles comme l'opération Staunch et le refus de négocier avec le terrorisme. La seconde question, le second point, est de savoir quand et dans quelle mesure le président des États-Unis a eu connaissance de l'affaire, question qui rappelle celle posée à Nixon lors du Watergate. En ce qui concerne Reagan, moins il paraît impliqué, plus il paraît incompétent et manipulé par son entourage. Avec de multiples péripéties parlementaires et judiciaires prenant parfois un aspect spectaculaire, l'affaire durera jusqu'en 1992, où George Bush accordera un pardon présidentiel aux dernières personnes impliquées. L'implication israélienne paraît tout à fait secondaire et ne provoque aucun débat aux États-Unis, alors que de A jusqu'à Z dans l'affaire, les Israéliens ont été partie prenante. Et probable que Reagan n'aurait pas agi s'il n'avait pas eu les assurances de Peres, de Rabin et de Shamir qu'il y avait en effet un changement de politique possible à Téhéran. En revanche, l'Iran va payer cher ses manipulations. Les États-Unis abandonnent tout espoir d'influencer la République islamique et vont apporter un soutien croissant à l'Irak de Saddam Hussein. Ils agissent tout aussi bien par esprit de vengeance qu'en raison de la nécessité d'apaiser les alliés arabes particulièrement courroucés par le comportement américain. Mais il n'en reste pas moins que les Irakiens, tout en recevant l'aide américaine, sont persuadés que les Américains ont agi contre eux, avec Israël, ce qui n'est pas faux. Et donc Saddam Hussein voit un complot américano-israélien dans sa personne, c'est son interprétation de l'Iran Gate, ce qui, pour un personnage déjà paranoïaque, ça renforce. Aujourd'hui, on commence à publier des bandes magnétiques enregistrées par Saddam Hussein, puisqu'on a tous les entretiens de Saddam Hussein avec ses responsables politiques et qui ont été retrouvés par les Américains en Irak sur bande magnétique. Donc on commence à exploiter ce qu'on appelle le Saddam Tapes, qui sont une source très intéressante d'informations qui démontrent en particulier que Saddam Hussein avait perdu le contact avec la réalité depuis longtemps. On a donc les entretiens au plus haut niveau de l'État irakien sur bande magnétique. Et ces bandes sont aux États-Unis et les Américains sont en train de les publier sous forme d'extraits commentés. Alors, repassons maintenant à nos affaires directes. Mais vous comprenez bien que l'Iran Gate qui a failli emporter l'administration Reagan, parce qu'il était un moment question d'impeachment comme pour Nixon, a été un événement traumatique dans la vie politique américaine. Alors, chez nous, au Moyen-Orient, au Liban, la guerre des camps se poursuit avec des progrès sensibles des pro-arafatistes, en particulier dans la région de Saïda. Cela permet au chef de l'OLP de se rapprocher de ses opposants et de compromettre les dissidents. Son discours est ouvertement anti-syrien. Il accuse Hafez al-Assad de procéder à un complot en liaison avec Israël, dont le but est de créer des cantons confessionnels au Liban. George Habash, lui, se contente de s'en prendre à Amal. Il déclare, par exemple, le 29 novembre 1986 à Alger, « La Jordanie, Israël et le mouvement Amal jouent chacun un rôle précis dans le cadre d'un plan global visant la liquidation de toute la résistance palestinienne. Les Israéliens interviennent régulièrement contre les organisations terroristes et apportent leur soutien à l'armée du Liban Sud, soumise à une guérilla permanente. Après l'échec des médiations algériennes et iraniennes, Amal lance une offensive destructrice dans le secteur de Shatila le 13 décembre 1986. Les combats se poursuivent avec intermittence les semaines suivantes. Au début de janvier 1987, Israël somme les chrétiens libanais de cesser de laisser passer les combattants palestiniens venus de Chypre et menace de mettre sous blocus le port de Jounieh. Rabin déclare le 7 janvier 1987 « Au Liban, la croyable est toujours vraie, qui aurait supposé un jour que le port de Jounieh serve de voie d'accès principale aux forces de l'OLP, qui aurait imaginé qu'un jour l'artillerie des forces libanaises appuie les Palestiniens lorsque la milice Amal attaque le camp de Shatila. » On est dans le système infernal des alliances de la guerre civile libanaise. Jadis, avec mon ami Samir Kassir, on avait mis au point des schémas d'alliances possibles dans la guerre civile libanaise, A et B contre C, A et C contre B, C et B contre D, D et A contre E. Et on s'est aperçu qu'à peu près toutes les combinaisons possibles s'étaient retrouvées dans la guerre civile libanaise, dont celle-là qui paraît incongrue au départ, donc l'alliance des Palestiniens et des chrétiens contre les musulmans. Les intéressés démentent avec vigueur, évidemment, de toute coopération avec les Palestiniens. Les Palestiniens, eux, accusent Hamas de coopération avec les Israéliens. Et c'est une coopération de fait, non pas de droit dans le réel. C'est-à-dire qu'en effet, l'aviation israélienne bombarde des positions palestiniennes pour appuyer les milices Hamas dans le combat contre les Palestiniens. En février 1987, la guerre de propagande atteint de nouveaux sommets. Les habitants du camp de Bourges-Brajné, soumis à un blocus d'Amal, demandent une fatwa permettant de se nourrir de chair humaine, tellement le ravitaillement n'existe plus. Amal et la Syrie annoncent des gestes humanitaires. Arafat évoque un génocide semblable à celui qui a motivé le procès de Nuremberg. Le Conseil de sécurité lance un appel au cessez-le-feu immédiat et la levée du blocus. Un peu de ravitaillement peut passer par Beyrouth jusqu'au camp. Les forces de la gauche libanaise s'allient de fait avec les Palestiniens contre l'hégémonie de Hamas. À la mi-février, le PSP de Walid Jumblatt, associé aux communistes, combat Hamas à Beyrouth. Le 21 février 1987, l'armée syrienne revient à Beyrouth Ouest pour s'interposer avec les combattants. Entre les combattants, pardon. Le 24 février, Rabin déclare qu'Israël se réserve le droit à veiller sur sa propre sécurité. Et le retour syrien à Beyrouth Ouest efface l'un des derniers gains israéliens de la guerre de 1982. Il est jugé positif par les pays occidentaux, soucieux du retour de l'ordre et espérant une solution syrienne à la question des otages. L'ordre syrien est marqué par la fermeture des permanences des milices libanaises, au moins temporaires, la prise de possession d'une caserne occupée par le Hezbollah se traduit par la mort de 23 militants de l'organisation. Clairement, Damas veut montrer qui est le maître au Liban. La guerre des camps se poursuit tout le mois de mars. Les Syriens n'interviendront qu'à condition d'éliminer les forces d'Arafat. Contournant la banlieue sud, l'armée syrienne, appuyée par les forces de sécurité libanaises, prend le contrôle de la région jusqu'au fleuve Awali. Parallèlement, toute une nouvelle série de prises d'otages d'occidentaux, au mois de janvier 1987, conduit les États-Unis à interdire à leurs ressortissants de se rendre au Liban. Le négociateur britannique Terry White est lui-même enlevé, ce qui laisse peu de place à l'espoir d'une libération prochaine. Les mouvements de la 6e flotte au large de Beyrouth sont plutôt la marque d'une impuissance occidentale qu'une détermination à lancer une opération militaire. La tension est très forte dans les territoires occupés. À Jérusalem, à la suite de l'assassinat d'un étudiant religieux le 15 novembre, pendant plusieurs jours, des manifestations appelant à tuer des Arabes sont tolérées par les autorités publiques avant d'être sévèrement condamnées sur le plan verbal. Violence et répression sont pratiquement quotidiennes en Cisjordanie. Le 4 décembre, deux étudiants sont tués par des tirs de l'armée israélienne lors d'une manifestation à l'université de Beer Zeit. Le lendemain, à Naplouse, un adolescent de 14 ans qui jetait des pierres connaît le même sort. Le commandant en chef des forces israéliennes dans le secteur de la Cisjordanie, Ehud Barak, souligne que les unités sur les lieux sur place sont soumises à une extrême tension, mais ont agi selon les règlements en vigueur. Il s'ensuit plusieurs jours de manifestations avec la mort d'un quatrième Palestinien, un enfant de 12 ans, le 8 décembre. Le Conseil de sécurité est saisi de l'affaire. Le représentant israélien Benjamin Netanyahou plaide la légitime défense des soldats israéliens et accuse l'OLP, partout en perte de vitesse, de susciter ces violences. La formule de Netanyahou est « j'assassine, j'organise des émeutes, donc je suis », pour évidemment définir l'OLP. La résolution 592 du 8 décembre 1986 réaffirme que les conventions de Genève s'appliquent au territoire occupé, y compris Jérusalem, et invite instamment Israël à les respecter, notamment en ce qui concerne les populations civiles. Les États-Unis se sont abstenus et les 14 autres membres ont approuvé la résolution. La contradiction du discours israélien porte sur le fait que l'OLP est en perte de vitesse et qu'elle a la capacité d'organiser des mouvements populaires. Cela ne doit pas cacher le fait que les islamistes, en particulier à Gaza, ont joué un rôle important dans ces manifestations où l'on entend de plus en plus des slogans d'inspiration religieuse. Lors des élections étudiantes, les islamistes progressent. S'ils restent minoritaires à Beer Zeit, ils ont la majorité à Gaza et à Hébron. La différence de programme entre les islamistes et les nationalistes porte sur la nature du futur État palestinien, qui pour les premiers doit être un État intégralement islamique, et sur la possibilité d'une solution politique comprenant deux États, l'un israélien, l'autre palestinien. L'argument avancé par les frères musulmans est l'habituel slogan que l'islam est la solution. La catastrophe de 1948 ayant démontré l'échec du libéralisme, celle de 1967, celui du nationalisme. Mais le maximalisme des positions des islamistes contraste avec leur attentisme. Tant que la société n'est pas suffisamment devenue islamique, disent-ils, il n'est pas temps d'entreprendre la lutte armée. Mais cette position est de plus en plus difficile à tenir devant la montée de l'exaspération de la société et les accusations de collusion avec l'occupation que leur adressent les nationalistes. Au début de 1987, la mobilisation politique reste forte avec de nombreuses manifestations de protestation contre la répression israélienne et de solidarité avec les camps palestiniens du Liban. Clairement, si Arafat est en train de perdre militairement la guerre des camps, voire la présence de ses partisans au Liban, il a réussi à faire de la confrontation avec la dissidence un conflit direct avec la Syrie et avec les chiites libanais. Il apparaît ainsi comme le seul garant de l'indépendance palestinienne et ses adversaires comme des marionnettes de Damas. De même, dans les territoires occupés, les tentatives jordaniennes de vouloir recréer un soutien à l'option jordanienne échouent devant la montée d'un sentiment national palestinien dont une composante prend nettement un caractère islamiste. Grâce à son identification au nationalisme palestinien, Arafat bloque toutes les tentatives de ses compétiteurs de se passer de l'OLP et du Fatah. Et avec ça, vous avez le droit à votre pause que je mérite aussi.